Alors, vous vous souvenez peut-être, il y a quelque temps, à la radio, il y avait une émission, crochet radiophonique, comme on appelait ça, où on demandait aux personnalités les films de votre vie.
Oui, on demande ça souvent, enfin, je veux dire, dans les journaux, dans le, à la télévision. Souvent, on vous demande, même les magazines vous demandent, alors faites votre choix, votre liste. Ce serait cruel, ça, de...
Ben, moi, je vais vous faire un aveu.
Oui.
Le dernier métro est dans mon palmarès, c'est
ah,
vous.
Ah, c'est vrai? Bon, ben, d'accord.
Et vous?
C'est un souvenir de tournage absolument formidable. Et quand on a tourné le dernier métro, on savait qu'on tournait. Le scénario était très, très, très bien. Et le scénario, finalement...
Et beaucoup d'enseignements politiques encore aujourd'hui.
Ouais. Mais les scénarios, on ne dira jamais assez à quel point c'est vraiment le nerf de la guerre. Et l'importance du scénario, oui, c'est vraiment, c'est une chose capitale. C'est vrai qu'on le dit, mais je trouve qu'il faudrait le dire et le redire tout le temps, parce que quand on a fait le dernier métro, on savait, tout le monde savait, vous voyez, que c'était vraiment un très beau scénario. Alors ça, c'est vrai quand même que ça donne, en général, on essaye d'aimer les choses que l'on fait, mais on n'a pas toujours cette conviction avant de commencer le tournage que c'est un très beau scénario. Des fois, on trouve le scénario très bien, et on sait que le film va exister au tournage. Mais dans le cas du dernier métro, c'est vrai qu'il y avait ça pour tout le monde, pas seulement les acteurs, vous voyez, les techniciens, tout. Donc il y avait une atmosphère très particulière. En plus, on tournait dans un endroit comme un petit studio, dans une ancienne chocolaterie aux environs de Paris, là, à la sortie de Paris. Ça a été un tournage absolument formidable, dur aussi par moments, mais formidable, vraiment formidable.
Puis c'est le cinéma dans le théâtre dans le théâtre, la mise en abîme du récit, le spectateur voit une directrice de théâtre, oui, qui est dans un théâtre, mais qui joue la directrice de théâtre. Enfin, il y a tout ce jeu aussi de Truffaut avec vous.
Oui, oui, non, mais là, c'est vrai que c'est un peu les poupées russes. C'est vrai qu'il y a le directeur de théâtre qui est là dans le théâtre, mais qu'on ne voit jamais, qui est là dans le sous-sol et qui entend tout. Enfin, qui ne peut suivre les choses que par l'oreille, qu'on voit suivre comme ça dans les tuyauteries du théâtre. Oui, oui, c'est un film très... Souvent dans les films de Truffaut d'ailleurs, c'est très clair, on dit des choses très claires, et en vérité, c'est des choses dans des choses encore qui se... Alors, en apparence, il a l'air de s'exprimer comme ça très clairement, de parler très nettement des choses, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses toujours derrière encore, je trouve, qui sont... Mais comme il était lui d'ailleurs, il parlait, il s'exprimait très bien de ses films, il parlait très bien du cinéma, il est très passionné, mais il y avait beaucoup d'autres choses derrière qui n'étaient jamais exprimées. C'était quelqu'un de très passionné, mais aussi de quelqu'un de sombre, de gay, de sombre.
Mais ce qui frappe beaucoup quand on revoit le film aujourd'hui, c'est effectivement, c'est l'enseignement historique, en dehors de la qualité du scénario et de l'interprétation des acteurs, l'enseignement historique qui résonne vraiment, qui retentit même encore aujourd'hui. Est-ce que ça, c'était présent pendant le tournage, cette période de la résistance, l'importance qu'on pouvait et qu'on devait y accorder?
Pas peut-être comme vous l'exprimez là aujourd'hui, non, peut-être pas. Peut-être pas, non. Vous savez, les acteurs, quand on tourne, quand même, on est beaucoup dans les scènes, dans ce que l'on fait. On est quand même aussi un peu égoïste, vous voyez, donc on est beaucoup plus dans les choses au quotidien. On n'a pas cette vision d'ensemble comme ça tout le temps. Sauf, encore une fois, c'est vrai qu'on me sentait bien, même de la part des techniciens, je veux dire, l'intérêt pour le film, quand même, pour le tournage du film.
On a l'impression que Truffaut a peut-être été le premier, je me trompe, hein, peut-être, à découvrir en vous, et c'est peut-être justement là le moment du rideau déchiré, le côté affirmatif, volontaire, énergique de votre personnalité.
Il trouvait que mon physique m'avait beaucoup servi, et il en a parlé très bien. Mais il pensait aussi que ça pouvait être un inconvénient et que c'était un poids aussi. Et il voulait absolument me donner un rôle de maturité et le rôle d'une femme active, d'une femme qui n'était pas forcément dans la séduction, qui par moments était brusque, sèche.
Masculine.
Oui, virile, oui. Oui. Comme Marie Bonaparte, hein, des femmes qui s'expriment. Parce que des femmes qui ont un moment à prendre des décisions et à dire des choses et qui ne vont pas user de leur féminité, donc de termes forcément... très choisies, qui sont des femmes un peu brutales. Et c'est vrai que c'était important parce que là, il y a eu la concordance entre le dernier métro et l'âge que j'avais dans la vie, si vous voulez. C'est vrai que c'était une chose qui m'a permis de rebondir vers d'autres choses. Après, d'ailleurs, on m'a malheureusement proposé beaucoup de choses dans l'esprit du dernier métro. Je dis malheureusement parce que je trouve que oui, il faudrait que ça débouche sur autre chose que sur des répétitions ou des mais c'est vrai que ça a quand même beaucoup, ça a beaucoup compté pour moi dans ma carrière, comme on dit. Ça me paraît toujours mon terme bizarre, mot carrière. Je vois toujours un truc où j'ai l'impression qu'on met des pierres comme ça et qu'on essaye de construire, alors que on passe son temps, c'est comme un puzzle, une carrière. On passe son temps à faire des choses. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se défendent, il y a des choses qui s'ajoutent, des choses qui s'enlève. Une carrière, c'est pas du tout une espèce de bateau qu'on lance comme ça, qui ensuite doit avancer.
Et vous l'exprimez, ça, ce désir de vous voir vous inscrire dans le cinéma comme,
oui,
avec un autre type de caractère et un dévoilement autre de votre personnalité.
Absolument. Et d'une femme qui faisait des choses, et pas seulement des choses par rapport aux hommes, par rapport à sa féminité, par rapport à l'amour, toujours, par rapport aux sentiments, mais par rapport à la vie. C'est une femme qui avait un certain courage comme ça, et qui, sans être une héroïne de la résistance, une femme qui allait quand même faire des choses, et donc me situer plus, je crois qu'il craignait beaucoup que les gens me perçoivent, il pensait que les gens plutôt me percevaient comme une actrice sophistiquée, un peu froide, un peu, il avait vraiment envie de contourner ça, quoi. Il avait vraiment envie de me donner un rôle comme ça.
L'autre jour, j'ai eu la chance d'aller à l'Olympia et d'écouter Juliette Gréco. Et elle a chanté « Déshabillez-moi ». Et juste avant, elle s'est excusée de le chanter, mais elle a dit « C'est peut-être pas normal, indécent », c'est le terme qu'elle a employé.
Ah oui, indécent.
Mais c'est une très belle chanson. Moi, je suis une chanteuse et je vais donc servir cette très belle chanson. Est-ce que pour vous, le fait de vieillir, c'est un problème?
Bien sûr que c'est un problème.
Pas pour
mais
vous
c'est
personnellement.
Pas. Mais pour moi personnellement, c'est un peu. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, parce que c'est vrai que dans la vie, on n'y pense pas. Heureusement, Mais au cinéma, bien sûr que c'est un problème, parce que le cinéma, c'est pas le théâtre, c'est un métier très visuel, et donc l'image est quand même assez dure. Mais moi, j'essaye d'apprivoiser ça le mieux que je peux. C'est-à-dire que je sais très bien que c'est pas un combat, c'est pas une guerre. Je sais très bien que il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à gagner, si vous voulez, à essayer de continuer à préserver une image ou une apparence qui ne correspond pas à la réalité. Je veux dire, c'est vrai que par moments, c'est difficile, parce que c'est plutôt par rapport à l'énergie, c'est plutôt par rapport au regard, vous voyez. Finalement, on s'aperçoit que les visages changent, mais pas tellement. Mais ce qui change, c'est le regard. C'est-à-dire que le regard devient plus lourd, souvent plus triste aussi, d'ailleurs. Souvent, je trouve, quand on voit des photos, les gens, si on masque une partie du visage, c'est aux yeux qu'on voit l'âge, beaucoup plus que les rides, je trouve. Les regards sont moins gais, moins étonnés, moins... Donc, des fois, ça peut m'agacer comme ça, mais disons que c'est pas une angoisse. C'est pas une angoisse, et je sais que peut-être un jour ça s'arrêtera, en effet, parce que moi je suis pas sûre de pouvoir continuer à vieillir au cinéma. C'est-à-dire, je suis pas sûre d'avoir envie de me voir sur un écran. Je sais pas si je suis assez actrice pour me dire que je jouerai, vous voyez, jusqu'à 70 ans ou 75 ans. Je sais pas. Je sais que le jour où j'aurai l'impression de m'ennuyer, ou que j'en aurai assez, alors là, au-delà même des questions physiques, je sais que j'arrêterai. Je sais que j'arrêterai, parce que dans la vie, c'est une chose que je peux pas supporter, c'est ça, c'est de m'ennuyer. Donc, comme ça m'angoisserait trop, je sais pas ce que je ferais d'ailleurs, mais je sais que je pourrais pas faire du cinéma si vraiment les rôles qu'on me proposait ne m'intéressaient plus, non.
Gréco, elle est sublime en chantant cette chanson. C'est comme une sorte d'abandon, et en même temps, c'est très très beau. Donc, on peut aussi peut-être vieillir au cinéma.
Oui, mais d'abord, vous dites, vous l'avez vu à l'Olympia, donc il y a cette distance de la scène qui donne une magie et qui permet, je veux dire, quand même de voir la personne, mais en même temps de vous n'êtes pas vous confrontez comme au cinéma à une espèce de présence comme ça physique de gros plans. Il faut que ce soit un accord, si vous voulez. Je pense qu'en effet, une femme comme Juliette Gréco peut chanter cette chanson, mais je suis pas sûre qu'une femme du même âge que Gréco pourrait la chanter. Vous voyez, il y a quand même c'est pas une question de légitimité, mais c'est une question de cohérence par rapport à la façon dont on le chante. Si elle le chante d'une façon, en effet, troublante et sexy, même si elle a 60, je sais pas quel âge elle a, Juliette Gréco, mais je suis sûre que ça peut non pas passer, parce qu'il s'agit pas de passer, mais je suis sûre que ça peut être en effet une chose très forte. Le problème, c'est si on arrive à une chose indécente. Mais on voit des fois aussi des femmes très jeunes qui font des choses et qu'on trouve aussi indécent. De l'indécence, après tout, c'est vraiment, c'est quand c'est vraiment trop le grand écart entre ce qu'on est en train de dire et ce qu'on représente ou ce qu'on est supposé vieillir au cinéma. Oui, mais pourquoi pas. Mais ça me paraît pas être, ça me paraît pas être seulement d'ailleurs un problème physique. C'est plus lié à l'intérêt des rôles, voyez. C'est plus lié à l'importance des rôles.
Mais on dirait que vous en moquez de la vision de votre propre image.
Ah oui. Enfin, je m'en moque.
Vous regardez l'image, vous regardez les rushs, vous regardez l'image.
Je regarde les rushs, je déteste les vidéos sur les tournages et les combos, tout ça, parce que je trouve que ça donne une image. Parce que je trouve que c'est pas fait pour être d'abord à la télévision, donc je trouve que c'est un rendu qui ne convient pas. Je trouve que c'est trop rapide. Je trouve que, en plus, c'est pas l'œil humain, donc on voit des détails qu'on ne verrait pas autrement. Je trouve que ça enlève l'idée en plus qu'il doit se passer quelque chose quand on filme, qui n'est pas forcément possible de fixer immédiatement sur un écran. Je pense que pour des films techniques c'est très bien, mais moi ça c'est un des grands sujets de discussion et de dispute avec André Téchiné. C'est un de nos rares points de discordance profonde, ça, le combo, parce que lui il l'utilise. Il fait des plans séquences très très longs. Il en a besoin. Et alors, ce que je lui dis, mais je n'y rends pas compte, mais souvent maintenant, tu n'es plus sur le plateau, tu es au combo et tu suis la scène au combo. Parce que beaucoup de metteurs en scène font ça, ils ne sont plus sur le plateau physiquement. Donc, moi, je trouve ça quand même. Oui, c'est très, très spécial. Et c'est surtout que je trouve que ça montre des choses. Ça ne rend pas du tout, par exemple, l'émotion ne passe pas du tout au combo, je trouve. L'émotion ne passe pas du tout. Alors, on voit des choses techniques, mais c'est. Non, mais ce n'est pas que je m'en moque, hein, quand même, de la. C'est pas que je m'en moque, mais c'est vrai que. Je crois que je l'ai vraiment apprivoisé. Je me connais. Je sais où je peux compenser. Je sais où je peux encore. Je ne lutte pas. Vous voyez, c'est comme. Mais c'est pareil pour les photos. Je veux dire, j'ai toujours que moi, je veux pas de retouches intempestives ou vous voyez qui me donnent comme ça un air lavé. Et je dis, écoutez, j'ai un certain âge. Je vais pas me retrouver avec. Je veux pas non plus. Vous voyez de ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est difficile. Mais en tous les cas, je serais pas prise par surprise. Hein. Je suis préparée.
Oui, mais vous avez été Marianne, votre visage depuis 30 ans a envahi l'imaginaire des Français. Comment vous regardez chaque matin?
Oh non, alors ça, vraiment, je me regarde pas du tout comme ça. Moi, je me vois pas du tout comme ça. Mais non, mais tout ça, c'est l'image, c'est des choses posées, c'est des choses. C'est une réalité, si vous l'aimez, c'est pas.
C'est votre boulot aussi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est mon travail.
C'est dur d'avoir comme boulot.
Mais mon boulot, c'est pas d'être belle, vous voyez. Mon boulot, c'est pas d'être belle. Je veux dire, c'est pas d'être belle. Mon boulot, c'est heureusement autre chose. Ça passe par le physique, mais c'est pas d'être belle et d'être jolie à tout prix. Et puis surtout maintenant, c'est le physique est indissociable, si vous voulez. Mais heureusement, la chance, c'est que quand même avec le temps, le physique compte. Mais c'est pas tout à fait les mêmes choses.
Oui, c'est le regard.
C'est le regard, c'est la voix, l'intériorisation, la chaleur, enfin, je sais pas, des choses qu'on peut pas, on n'est pas à 45 ans comme on est à 20 ans, c'est une autre émotion, c'est autre chose. Mais bon, c'est vrai que moi, c'est une chose avec laquelle j'ai appris à vivre et c'est pas une angoisse. C'est pas une angoisse. Ce sera peut-être un problème si moi j'avais envie de continuer à travailler, que physiquement, je voyais bien qu'il y avait un trop grand décalage et que bon, ça ne me plaisait plus d'être, mais c'est surtout par rapport, franchement, c'est surtout par rapport à l'importance des rôles et puis au manque d'énergie aussi. Moi qui suis quelqu'un de très actif et de plutôt énergique, c'est vrai que c'est ça aussi qui me manque parfois, c'est de sentir que j'ai plus autant d'énergie que. Je voudrais pas devenir paresseuse, vous voyez. Je le suis assez comme ça.
Vous avez dit dans un entretien il y a très longtemps au Cahier du Cinéma que vous aviez l'impression qu'il y avait quelque chose en vous qui était encore verrouillé. Est-ce que vous avez toujours cette impression?
Oui, je pense que je suis pas quelqu'un qui est totalement. Je suis pas quelqu'un de. Je peux être très ouverte à quelques-uns, mais je suis pas ouverte à tout ni à tous. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des choses qui sont encore. Oui. Moi, je pense qu'il faut bien une vie, hein, pour arriver à ouvrir toutes les fenêtres. Mais c'est pas forcément contourner. Je pense qu'aussi être actrice, c'est ça. C'est aussi fonctionner avec sa. Avec. Travailler avec sa personnalité, je veux dire, et sa perception de. On peut pas, vous voyez, on peut pas oublier ça. Je veux dire que deux actrices du même âge, deux femmes, vont jouer les choses différemment. Et ce sera en fonction, non pas de leur intelligence du texte, mais aussi de leur personnalité.
Oui, mais être actrice, n'est-ce pas aussi pouvoir se dépersonnaliser, ne plus être soi pour être quelqu'un d'autre sans arrêt réincarné?
Bien sûr, mais même quand on est quelqu'un d'autre, on est quand même toujours soi. D'ailleurs, la preuve, c'est que même des actrices, deux actrices de lui-même, on va dire, de la même, aussi bonne l'une que l'autre, je veux dire, comme actrice, vont donner des interprétations très différentes. Ça veut bien dire quand même qu'il y a quand même quelque chose de la personne, de la personnalité de quelqu'un qui entre en ligne de compte. C'est toujours avec notre tête que l'on pense, et que l'on parle d'ailleurs. Et ça, c'est une chose. Vous parliez tout à l'heure des silences. Ben voilà, justement, le silence est vraiment le rythme, la ponctuation d'une personne et exprime autant de choses. Et ça, c'est justement le silence, c'est souvent ce qu'il y a dans la tête et ce qu'on ne peut pas, enfin, en tous les cas, ce qui vient là pour de temps en temps mettre un espèce de retrait ou de nuance, beaucoup aussi.
Mais j'imagine qu'il faut un grand territoire de secret pour pouvoir donner au cinéaste ce qu'il vous demande. Est-ce que ce territoire de secret, il est immense?
Je ne sais pas, je pense que ça dépend des moments. Moi, je sais que je suis quelqu'un plutôt d'assez secret. Mais il n'empêche que je trouve que je parle quand même beaucoup et que je dis des choses quand même très, très personnelles. Donc, c'est quand même pas... Il y a des gens secrets qui sont vraiment à double tour et qui vous parlent, mais qui en même temps ne se livrent jamais. Moi, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le cas. Mais je pense que c'est un terrain très extensible, le terrain du secret. Vous voyez, je pense que ça peut être en fonction des rencontres que l'on a et des gens avec lesquels on travaille, ça peut vraiment évoluer beaucoup.
Je connais des écrivains qui ne veulent pas et n'ont jamais voulu entreprendre une psychanalyse parce que, disent-ils, sans ça, ils vont...
Ils ont peur de ne plus pouvoir travailler.
Voilà.
Oui, Truffaut disait ça aussi, d'ailleurs.
Oui. Vous comprenez ce genre d'observation?
Je comprends ce genre de crainte, mais les acteurs ne sont pas des artistes au sens... les acteurs plutôt sont des interprètes avant tout, tandis que les écrivains sont vraiment des créateurs, sont des gens qui fonctionnent sur leur propre univers et qui fabriquent, qui inventent, qui c'est leur pensée, c'est leur... Je comprends que ça puisse être une crainte, mais en même temps il faut savoir ce que l'on préfère, enfin ce que l'on choisit, parce que c'est vrai que je me souviens qu'il y avait cet écrivain qui avait dit qu'il ne voulait plus aimer parce que ça l'empêchait de travailler et que ce serait une... C'était pas Valérie. Je crois qu'il avait dit qu'il ne voulait plus parce que c'était une chose qui, malheureusement, l'empêchait de... Et c'est vrai que pour moi, en tant que femme, ça me paraît une chose absolument effrayante, ça, de se dire qu'on choisit ce que l'on fait, donc ce que l'on est, et qu'on met de côté ses sentiments comme si c'était une chose qu'on pouvait, en effet, reléguer. Alors ça, c'est une chose qui m'est totalement étrangère. Ça, il me semble que moi, le sentiment, c'est toujours ce qui submerge complètement la personne. Il y a des moments où, évidemment, on peut faire d'autres choses et on est... Mais, pouvoir se dire qu'on peut condamner ça comme si c'était une porte justement qu'on fermait parce qu'on voulait laisser la place à... Ça me paraît une chose... Je ne sais pas si les femmes pourraient... Si une femme peut dire ça. C'est un homme qui l'a dit. Oui, je crois que c'est Paul Valéry, mais je ne pense pas qu'une femme pourrait dire ça. Je ne pense pas qu'une femme pourrait se consacrer. D'ailleurs, je pense que l'amour, de toute façon, est la grande affaire des femmes et pas des hommes. Hein. Je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de grands amoureux et des hommes qui aiment, mais c'est quand même... C'est quand même pas l'affaire de leur vie, quand même.
Est-ce que le cinéma vous a empêché de vivre votre vie?
Jamais. Alors ça, jamais, jamais. Ah non, jamais.
Et ça n'a pas encombré par l'image que vous aviez vos relations?
Aussi, bien sûr, ça a dû compliquer parfois et ça a dû être... Mais en tous les cas, d'avoir à choisir ou de donner ou de choisir... Ah non, ça jamais, jamais. Non, ça, ma vie, c'est prioritaire surtout. C'est vrai que ça peut être très envahissant, hein, le cinéma. C'est vrai que si on pose la question à mes enfants, je suis sûre qu'ils vous diront, quand ils étaient petits, qu'ils ont le souvenir que, bon, j'étais pas là le soir, que je sortais, que j'étais... Mais en même temps, je crois que tous les enfants se plaignent. Hein. Je vois, j'ai des amis qui travaillent, et si jamais les parents sortent le soir, j'ai vu des petites filles se traîner à la porte en pleurant, disant « ne sors pas ce soir, ne sors pas ce soir ». Donc, quel que soit le métier que l'on fait, les enfants ont envie que les parents soient là, comme la chef de Monsieur Seguin au piquet. Et donc voilà. Non, moi, ça, j'ai pas du tout de remords par rapport à ça. Vous voyez, je sais que mes enfants sûrement peuvent l'exprimer. Je pense que c'est leur réalité, mais je pense pas que c'est la réalité.
C'était à la télévision il y a pas très longtemps. Vous incarniez Marie Bonaparte. Oui. Et c'est étrange, la télévision, parce que c'est un flux d'images permanent. Mais je pense que j'ai pas été la seule à la fin du second épisode à pleurer devant ce que Marie Bonaparte essaye de donner comme énergie, et comment elle considère Freud avec cet immense respect.
Oui, puis cette envie de le sauver, déjà, parce qu'il l'a sauvée, elle. Elle pense que sur le plan affectif, elle a été, enfin, sur le, en tant que femme, en tant qu'être humain, je veux dire, pas seulement sur le plan affectif, elle pense vraiment qu'il l'a sauvée, que c'était une femme qui était perdue, désespérée, qui se mutilait, qui se faisait opérer. Donc, elle pense qu'elle a été sauvée. Et c'est vrai, quand elle le rencontre, il est déjà dans il est déjà assez âgé, il est déjà malade, d'ailleurs. Et c'est vrai que quand la montée du nazisme, tout ça, elle pense qu'elle a vraiment, elle a un devoir avec lui, elle doit le sauver. Il l'a sauvée, elle doit le sauver. Et c'est vrai qu'à la fin, on sent quand même qu'elle essaye de lui, de l'installer, de lui transmettre de la chaleur, sa présence, de lui donner de l'énergie, mais elle sait bien que c'est la fin. Mais c'est vrai que c'est très émouvant, parce que c'est vraiment une histoire d'amour quand même entre eux. Et d'ailleurs, elle a eu une autre histoire d'amour, mais elle lui dit, en vérité, c'est un type très brillant, Lovenstein, dont elle est amoureuse, mais elle sait qu'elle ne peut pas souffrir par lui. Donc ça, c'est vraiment un aveu formidable et terrible. C'est vrai que savoir qu'on ne peut pas souffrir par un homme, enfin qu'un homme ne peut pas vous faire souffrir, non pas, c'est pas une question de masochisme, c'est de savoir que il y a une limite quand même à ce sentiment. Donc on se protège et on sait qu'on est dans une relation plus tiède, ce qui n'est pas impossible, hein, ce qui est tout à fait, ce qui peut être aussi très très agréable, mais c'est vrai, quand elle fait cet aveu de dire que cet homme ne peut pas la faire souffrir, quand Freud lui dit, mais enfin, écoutez, il est intelligent, il est beau, il est jaloux, il vous aime. Et oui, mais c'est pas avec lui, en vérité, qu'elle a envie de parler, même s'il est intelligent. Elle revient toujours à Freud, c'est toujours...
Parce que les hommes qu'on aime sont pas ceux qui, comme dans Marie Bonaparte, sont ceux avec qui on peut parler de tout.
Ah, ça, je suis d'accord. Je pense que si on ne peut pas parler de tout ou presque, ça, c'est vrai que... Ah oui, ça me semble absolument indispensable, ça, l'intimité, la complicité, mais surtout l'intimité de la relation, ça me semble. Oui, le reste, c'est bon. C'est pas vraiment de l'amour, c'est être amoureuse, c'est ça, mais bon, vraiment aimer, c'est vraiment en effet pouvoir, je trouve, avoir une relation. Oui, pouvoir essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un.
À l'ombre de moi-même.
Oui.
C'est le titre des carnets.
Oui, ça m'est venu comme ça. Ça m'est venu comme ça. Je cherchais quelque chose qui soit simple et en même temps quelque chose qui soit pas trop concret. Et c'est vrai que souvent j'ai l'impression que je suis un peu à côté de moi, comme ça, un peu que je me protège, si vous voulez, que je suis dans le que j'ai ma vie à moi, si vous voulez, à côté de ma vie comme ça en lumière. Ça dépend des moments. Oui, elles sont pas sur le même plan toujours en même temps, non. C'est souvent d'ailleurs à l'ombre que je me sens le mieux. Et puis, des fois, c'est celle qui est en lumière aussi qui est la plus importante. Donc, ça dépend des moments. Mais bon, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Hein, il n'y a pas de lumière sans ombre. Mais à l'ombre de moi-même, c'est plutôt pour dire que c'est une chose. Parce que c'est surtout par rapport au contenu, si vous voulez, des cahiers, qui pour moi est vraiment comme une chose intérieure plutôt. Et c'est vrai que je les ai écrits vraiment comme une chose de compagnonnage, comme ça, de tournage parce que j'étais seule et que j'avais envie de fixer les choses et de pouvoir me confier comme ça. Mais c'est pas ce qu'on appelle un journal intime du tout. Je ne parle que des choses de travail et c'est assez décousu, ça me ressemble assez.